Il y avait en réalité des motifs très politiques. C'est qu'il y avait un Saint-Empire romain germanique en Occident et il y avait en Orient un empire, l'Empire byzantin, héritier de l'Empire de Rome, et ces deux empires étaient rivaux. Il y avait d'autre part des problèmes de liturgie et de rites. Les rites sont toujours très importants chez les Orientaux. Et puis il y avait également le problème du célibat des prêtres d'Occident alors que les prêtres d'Orient étaient mariés.
Quels sont aujourd'hui, 950 ans après la rupture, les grands points de tension qui subsistent ?
Déjà, les Orientaux ne reconnaissent pas l'infaillibilité du pape. Pour eux, seuls les conciles sont infaillibles et ce qui a été décidé par les conciles du premier siècle, des premiers siècles, ne doit pas être réformé ou complété. D'autre part, il y a ces problèmes de liturgie. Il est vrai que les Occidentaux ont profondément modifié, adapté leur liturgie, notamment avec le Concile Vatican II, alors que les Orientaux sont restés fidèles à la liturgie des premiers siècles. Il y a le problème évidemment du célibat des prêtres. Il y a peut-être aussi, depuis le XIXe siècle, avec la proclamation des dogmes comme l'Immaculée Conception et au XXe siècle l'Assomption, l'idée chez les Orientaux que le pape innove, alors qu'en réalité il s'agit de préciser dans les textes des points de doctrine qui ne divisent pas l'Occident et l'Orient. Car en réalité, entre orthodoxes et catholiques, il y a très très peu de différences. Les différences doctrinales sont beaucoup plus faibles qu'entre catholiques et protestants, ou même qu'entre orthodoxes et protestants.
Alors peu de différences, vous venez de le dire, entre les deux églises, mais dans les faits, la rupture est toujours consommée, et ce malgré des rapprochements. Est-ce que finalement ça ne témoigne pas d'un manque de tolérance et d'un manque d'esprit évangélique ?
Oui, il faut surtout faire la part des traditions, car il y a chez les Orientaux une importance très particulière donnée aux traditions, et le poids de l'histoire est ici très important, et peut-être plus encore le poids de la religion populaire. Parce qu'il est évident que si, au niveau des théologiens, d'une certaine élite intellectuelle, les relations se sont beaucoup améliorées, au niveau de la communauté des fidèles, les différences restent substantielles. Il suffit d'ailleurs d'assister à un office dans une église orthodoxe et dans une église catholique pour voir les différences.
En ce qui concerne le pontificat de Jean-Paul II, peut-on considérer que le pape a fait un travail important pour aller vers les orthodoxes ?
Le pape avait dit, lorsqu'il avait été élu, que l'Europe avait deux poumons. Un poumon à l'est, un poumon oriental, en partie orthodoxe, et un poumon occidental, en grande partie latin. Donc, on peut dire qu'étant slave, polonais, catholique, il était très bien placé pour opérer le rapprochement entre ces deux poumons. Malheureusement, il n'a pas pu mener à bien entièrement sa tâche, puisque, et il l'a regretté, il n'a pu se rendre en Russie. Avec la Russie, le dialogue n'a pas pu être approfondi autant que le pape l'aurait souhaité, en grande partie à cause du problème des églises uniates, c'est-à-dire des églises orientales unies à Rome. Il faut espérer que dans l'avenir, ce dialogue puisse être repris, ce qui suppose d'ailleurs que les éléments un petit peu nationalistes que pourraient avoir les uns et les autres soient laissés de côté, car à l'évidence, un dialogue œcuménique doit être universel, l'Église est universelle, il n'y a aucune raison pour que les orthodoxes et les catholiques ne s'entendent pas.